de Villepin. S'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ce qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans exiger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. D'un rythme de son fils numéro 1. Mais j'excuse l'Élysée si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le chiffre de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains.
Radio Libertaire 89.4, le grand soir du mardi, émission de la Fédération anarchiste. Nous recevons aujourd'hui donc Maxime Benatouil, militant à l'Union juive française pour la paix, membre du collectif juif décolonial CEDEC et enseignant en sciences économique et sociale. Il est l'une des 9 voix présentes dans l'essai publié par la Fabrique en octobre 2024. Essai intitulé « Contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations ». Son texte, intitulé « De gauche antiraciste et sioniste », pour en finir avec une contradiction qui persiste, explore le cas des sionistes de gauche qui, sous une apparence progressiste et antiraciste, ni la dimension coloniale de l'État d'Israël et ses conséquences. Il y dénonce également la rhétorique liant antisionisme et antisémitisme, un amalgame qui contribue à renforcer, je cite, un véritable antisémitisme. Donc, Maxime, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes
bonsoir.
Très heureux de te recevoir ce soir.
Je suis très heureux d'être avec vous.
On va te poser la première question. Comment est né ce projet collectif d'écriture contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations ?
Alors, ce projet a plusieurs sources. Ce projet, je crois qu'il faut signaler dès le départ que c'est une initiative de la maison d'édition La Fabrique, suite principalement à l'annulation, sous la pression de la mairie de Paris, d'une rencontre avec la philosophe juive, queer, états-unienne, Judith Butler, au Cirque Électrique, sous le prétexte, justement, d'une menace pour la sécurité des juifs, ce qui ne manque pas de sel, dans la mesure où beaucoup d'organisations juives, dont celle où je milite, étaient présentes dans le comité d'organisation de ce moment. Et le prétexte mobilisé pour silencier nos voix juives antisionistes, c'était justement la présence, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, de Ouria Boutelja et de son organisation Parole d'honneur dans le comité organisateur, précisément.
Alors, en préalable, en fait, on va signaler quand même que ce livre n'est pas vendu par la librairie Publico, qui est la librairie anarchiste, en particulier parce qu'il y a un texte de Ouria Boutelja, qui est fondatrice du Parti des indigènes de la République et qui est accusée de dérive identitaire. voilà. Donc, elle est antisioniste radicale et en 2013, déjà, elle provoquait une vive controverse en posant sur une photographie aux côtés d'une pancarte où il était écrit « Les sionistes au goulag ». Alors, ça pose un petit problème. Est-ce que tu peux nous dire un mot, puisqu'elle fait partie donc, des personnes qui ont publié dans cet essai ?
Il y aurait beaucoup de choses à dire et je pense qu'on ne va pas non plus consacrer une grande partie de l'émission à... parler de Ouria Boutelja. Juste pour revenir sur cette photo que tu cites, effectivement, Ouria pose devant, il me semble, un siège dans une station de métro, avec écrit une blague de gauchiste, finalement, de celui qui est sioniste au goulag. C'est une blague qu'on utilise dans beaucoup de milieux d'extrême gauche, dont les miens, hein, pour taquiner un peu un camarade ou une camarade qui dévirait un peu de la ligne et qui a été sciemment, je pense, mal interprété et où on a justement, à tort, associé sioniste et juif, sous-entendant qu'Ouria posait pour renvoyer les juifs à Auschwitz, ce qui est un non-sens total. Moi, ça fait 10 ans que je milite avec Ouria Boutelja, c'est une militante décoloniale conséquente. Elle n'occulte pas les rapports sociaux de classe, bien au contraire, elle les intègre seulement dans une dimension plus large, qui est celle du système monde, hein, qui a pu par exemple décrire quelqu'un comme Wallerstein dans les années 2000. Ouria articule la race, le capital et le genre comme forme d'oppression spécifique, sans en occulter aucun, mais en n'occultant pas la race, ce qui pose souvent problème. D'accord. À gauche et au-delà.
Oui, parce que juste pour terminer sur le cas de cette personne, donc elle a quand même déclaré au sujet de Jean Genet, qui s'est réjoui de la débâcle française en juin 1940, Genet, dit-elle, va à l'essentiel, la primauté du conflit de race sur le conflit de classe, le conflit de race qui désigne, je cite, le peuple blanc propriétaire de la France. Donc ça pose quand même quelques...
Oui, effectivement, je connais pas le contexte de cette analyse, de cette phrase, ni du texte de Genet. Donc moi, j'aime pas me positionner sur des éléments que je connais mal ou trop peu. Néanmoins, la blanchité dans le mouvement décolonial n'a rien à voir avec la couleur de la peau. C'est un rapport social. C'est un rapport social et il faut comprendre la blanchité pour ce qu'elle est, à savoir une sorte d'alliance entre le capital et une fraction du prolétariat, parce que tout le partage de la valeur ajoutée, par exemple, si valeur ajoutée il y a, c'est aussi parce qu'il y a exploitation coloniale des peuples du Sud, et que nous le voulions ou non, nous tous ici présents, en tant que citoyens français, bénéficions des fruits de cette exploitation colonial, et c'est ce que dit Ouria dans la plupart de ses analyses.
Aujourd'hui, on assiste à une assimilation de l'antisionisme et de l'antisémitisme. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'histoire de cette assimilation ?
Oui. Ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que chaque concept, chaque notion est l'objet d'un champ de bataille sémantique et politique. L'antisémitisme, comme catégorie, a été investi par justement des groupes de pression alliés d'Israël pour en modifier le sens, de manière à y inclure toute critique, plus ou moins radicale d'ailleurs, de l'État d'Israël. Pour comprendre cela, il faut faire un petit détour dans l'histoire, hein, que je fais dans ma contribution à cet ouvrage collectif, et revenir au moment 1967. Donc en 67, Israël remporte cette nouvelle guerre israélo-arabe et conquiert de nouvelles terres palestiniennes, mais pas que, parce qu'elle s'empare aussi à cette occasion du Sinaï et du Golan syrien, ainsi que de la Cisjordanie, qui était jusqu'à présent occupée par l'armée royaliste jordanienne. Bon. Le problème, c'est que à l'ONU, il y a de plus en plus de peuples représentés, de plus en plus d'États décolonisés qui ont accédé à leur souveraineté et se sont émancipés du joug des puissances coloniales françaises, belges et britanniques. Et donc, ce retour au colonialisme à l'ancienne ne passe pas auprès de peuples qui viennent de s'en émanciper. Et donc, en 1975, une résolution est prise à l'Assemblée générale des Nations Unies qui assimile le sionisme à une forme de racisme et de discrimination raciale, ce qu'il est fondamentalement, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Et donc, l'heure est grave pour Israël parce qu'il s'agit de ne pas perdre le soutien d'une institution qui avait statué la partition et le dépeçage de la Palestine en sa faveur en 1947. Et donc, la stratégie qui est mise en œuvre à l'époque par Abba Eban, le président des affaires étrangères de l'État d'Israël, c'est d'assimiler antisionisme et antisémitisme par un tour de passe-passe.
C'est un article
dans le New York Times, où il dit précisément « L'antisémitisme, ça consiste à ne pas garantir l'égalité des droits aux juifs dans les États-nations, et l'antisionisme, ça correspond à la non-garantie pour le peuple juif de l'égalité des droits dans la communauté des nations. » Et donc, c'est à partir de ce moment-là, alors, cette conception de l'antisémitisme, elle n'est pas devenue hégémonique tout de suite, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, ça a pris beaucoup de temps, et il faudra attendre 93 et les échecs des accords d'Oslo et le déclenchement de la seconde intifada dans les années 2000 pour que cette thèse du nouvel antisémitisme gagne du terrain et s'impose petit à petit au point, justement, d'être adoptée au sein de l'Assemblée nationale en 2017 ou 2018.
Oui, c'est devenu hégémonique, cette assimilation.
Oui.
Totalement. Oui, oui. Oui, oui.
Absolument. Et là, on pourrait illustrer cela avec l'actualité brûlante. Je pense qu'on a tous vu cette nuit Elon Musk, donc l'homme le plus riche du monde, et désormais le nouveau ministre de Trump, faire deux saluts nazis au moment de la soirée d'investiture de Trump. Mais comme il est sioniste, c'est-à-dire comme il est pro-israélien, ah, c'est compliqué, c'était pas tout à fait un salut nazi, ah, mais il est autiste, donc apparemment il fait pas exprès, ah, mais ceci, cela, on trouve quantité... Voilà. On trouve quantité
d'excuses
enfin. À partir du moment où on montre patte blanche vis-à-vis du projet colonial israélien. Ce qui montre bien que le problème, ce ne sont pas les juifs. Le problème, c'est le soutien à l'État d'Israël ou non. Donc, plus que jamais, la perception d'une organisation politique ou d'une personnalité politique dans son engagement contre l'antisémitisme est corrélée à son degré d'attachement à l'État d'Israël et à son projet colonial.
Alors, dans l'historique de l'assimilation de ces deux notions, tu parles de Irwin Kotler. Mm-hmm. Qui était ministre, je crois, un Canadien.
Oui.
Tu peux nous détailler ça ?
Alors, c'était non seulement ministre de la Justice du Canada pendant plusieurs mandats, il a été aussi président du Congrès sioniste canadien. Et en 2009, justement, il réactive la thèse de Abba Eban que j'expliquais un peu plus tôt, et il l'affine. C'est-à-dire que lui va... considérer que l'État d'Israël, c'est le collective Jew among the nations, c'est le juif collectif parmi les nations. Si on critique Israël, c'est que, in fine, on n'aime pas les juifs. Voilà ce que ça veut dire en tout et pour tout,
c'est
en substance.
C'est antisémite.
Voilà, c'est que critiquer l'État d'Israël serait aussi antisémite que de s'en prendre à des juifs parce que juifs.
C'est ça.
Et donc, il y a une extension de ce que recouvre la catégorie antisémitisme. Et c'est contre cela que nous, organisations juives décoloniales et donc antisionistes, nous battons depuis de nombreuses années, contre cette confusion qui selon nous, par ailleurs, nourrit l'antisémitisme véritable et qui revient finalement à réduire au silence et à criminaliser n'importe quelle critique de l'État d'Israël et, in fine, le mouvement de la solidarité avec la Palestine.
Mais ça va extrêmement loin. Il y a des partisans donc de cette assimilation qui ont même fait, qui ont établi une continuité directe entre le nazisme et l'antisionisme.
Oui, oui voilà.
Qui disait que les antisionistes veulent un monde Judenfrei, comme les nazis voulaient une Europe Judenfrei.
C'est le titre, justement, de ce papier de Erwin Kotler qui s'appelle quelque chose avec à l'intérieur Judenstaatsrein, c'est-à-dire épuré de l'État juif, et, alors que dans l'époque nazie, c'était tout simplement, effectivement, Judenrein, donc épuré des juifs. Bon. Donc, il y a effectivement cette petite musique qui vise à faire passer toute critique de l'État d'Israël comme un prolongement du nazisme. D'ailleurs, les nouveaux nazis, ce sont les musulmans. C'est bien connu. Benjamin Netanyahou lui-même a dit, à de nombreuses reprises, a tenu des propos complètement révisionnistes en affirmant que Hitler, finalement, ne savait pas quoi faire des juifs. Il avait envie de s'en débarrasser, mais ce n'est qu'en rencontrant le grand mufti de Jérusalem al-Husseini qu'on lui aurait soufflé que oui. Non, il ne faut pas virer les juifs parce que sinon ils vont aller chez moi en Palestine, il faut les brûler. Et donc c'est comme ça qu'on aurait trouvé la solution finale pour le problème juif. Non, c'est un non-sens historique, et c'est un non-sens historique qui est raciste et qui vise à protéger les velléités coloniales de l'État d'Israël sur la Palestine.
Alors, tu dis aussi, enfin, tu as écrit qu'en France, oui. Le 3 décembre 2019, il y a eu une adoption par le Parlement d'un texte 2019, oui. qui oui. assimile l'antisionisme et l'antisémitisme.
Voilà, c'est ça. Donc, alors, c'est le cheval de Troie hein, de l'antisionisme comme antisémitisme, ça fait longtemps qu'il toquait à la porte de la République, si vous me permettez l'expression, dès 2017, donc au début du premier mandat d'Emmanuel Macron. L'une des premières choses qu'il fait, c'est la commémoration de la rafle du Vel d'Hiv. Et à cette fin, il invite Benjamin Netanyahou, qui était déjà à l'époque Premier ministre de l'État d'Israël. À quel titre? Parce que quand on analyse bien de quoi il s'agit, la rafle du Vel d'Hiv, c'est un problème franco-français. C'est l'État fasciste français qui rafle des juifs français. Et aussi des juifs apatrides, européens, etc. Mais surtout des juifs français. C'est un problème franco-français. Et que fait Emmanuel Macron? Il invite un chef d'État étranger qui n'existait même pas à l'époque des faits dont nous parlons. Qu'est-ce que ça dit? Et dans quelle mesure c'est antisémite? Ça démontre bien qu'il considère que les Français juifs ne sont pas des Français comme les autres. Et moi, ça m'a tout de suite évoqué l'attentat contre la synagogue rue de la Roquette, où à l'époque, Raymond Barre avait dit qu'il y avait des victimes israélites et des victimes innocentes françaises. Ouais. Donc comme ça, il coupait le corps social français, il en excluait de fait les juifs. C'est exactement la même chose. On voit bien, d'ailleurs, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, que le philosémitisme, donc on prétend prendre à bras-le-corps la question juive, etc. On voit bien qu'en creux, c'est une forme déguisée et renouvelée de l'antisémitisme.
Bien sûr. Intéressant. Et alors, tu dis que ce discours, donc cette assimilation de l'antisionisme et de l'antisémitisme, est repris abondamment, oui. Essentiellement, je dirais, depuis les attaques du Hamas, hein, me semble-t-il.
C'est plus ancien que cela, mais avec... ça a commencé avec Valls, ça a été poursuivi justement par Macron lui-même, le jour de cette commémoration de la rafle du Vel d'Hiv. Il a dit deux choses. Mon cher Bibi, deuxième chose, l'antisionisme est une forme réinventée de l'antisémitisme. Donc, il s'inscrit dans ce qu'on est nombreux à appeler justement ce nouvel antisémitisme qui vise à considérer justement toute critique de l'État d'Israël comme une forme d'antisémitisme pour réduire au silence et criminaliser toute voix critique de l'État d'Israël et tout mouvement de solidarité conséquent avec le peuple palestinien.
Et puis c'est aussi une manière d'essentialiser les juifs. Oui. Parce qu'on ne voit pas pourquoi des juifs français ou de Dieu sait où serait automatiquement associé à l'État d'Israël.
Qui n'existait pas à l'époque. Et je rappelle ici que les premiers antisionistes étaient juifs.
Oui, tout à fait. Mm-hmm.
Parce que dans la tradition juive, peut-être que vos auditeurs libertaires et anarchistes ne connaissent pas très bien cela, mais c'est péché de précipiter la construction d'un État, alors ça, peut-être que ça peut vous plaire pour l'instant, dans l'ancien royaume d'Israël, parce que selon la tradition religieuse juive, il faut attendre la venue du Messie pour qu'il y ait une nouvelle forme de souveraineté juive. Et là, justement, c'est complètement saugrenu, interdit de créer un État juif sans la venue du Messie. Donc il y avait non seulement cette première forme d'opposition juive religieuse au sionisme politique et à sa matérialisation concrète avec l'avènement de l'État d'Israël, mais il y avait aussi un grand mouvement juif internationaliste ouvrier d'Europe centrale et orientale qui s'appelait le Bund, voilà, et qui était structurellement, fondamentalement antisioniste.
Tu as écrit « Le sionisme de gauche est une schizophrénie politique ». Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux dire par là?
Oui, mais pour que je sois clair, il faut d'abord que je revienne à ce que j'entends moi par sionisme et antisionisme 76 ans après l'avènement de l'État d'Israël. Donc j'ai commencé par dire ce que n'est pas le sionisme. Le sionisme, ce n'est pas qu'une idéologie politico-nationale achevée avec la création de l'État d'Israël. Le sionisme, ce n'est certainement pas un mouvement d'émancipation collective pour les juifs. Parce que comment le nettoyage ethnique massif de plus de 800 000 Palestiniens et le maintien sous des formes de subordination différenciée en fonction de leur lieu de résidence, l'État d'Israël, la bande de Gaza ou la Cisjordanie occupée du peuple palestinien, comment est-ce que ça pourrait être une forme d'émancipation collectif pour qui que ce soit. Donc le sionisme, moi je pense qu'il faut le comprendre de manière dynamique. Donc c'est un rapport social et c'est une forme continue d'accaparement de terres inachevée. Moi j'ai eu le privilège de rencontrer il y a quelques années de cela un député palestinien d'Israël, Ayman Odeh, qui vraiment fait de son mieux, le pauvre, hein, mais il est bien seul dans la Knesset, hein, dans le Parlement israélien, et je lui posais la question, mais c'est quoi pour toi le sionisme? Et il m'a dit la phrase suivante. Pour nous, Palestiniens, le sionisme, et je le cite d'ailleurs dans le livre, c'est « Empare-toi d'un maximum de terre avec le minimum d'Arabes possible à l'intérieur. » C'est un colonialisme de peuplement. Qui est en perpétuelle évolution. Et des deux côtés de la ligne verte, hein, pas que en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est annexée, où c'est évident là, qu'on colonise, qu'on chasse des Palestiniens, qu'on construit des nouvelles habitations que pour les Juifs. Donc il y a toujours une dimension d'ordre de l'apartheid, hein, dans le colonialisme de peuplement, mais au sein de l'État d'Israël lui-même. Parce que ce qu'on doit bien comprendre, c'est qu'au sein de l'État d'Israël lui-même, il y a 20% de la population qui est arabe-palestinienne. Et c'est pas... personne n'habite dans le même immeuble, shalom, salam, tout ça, ça n'existe pas. C'est un mythe. La plupart des Palestiniens sont concentrés dans deux endroits du pays, au sud, dans le désert du Negev Nakab, et au nord, dans la Galilée. Et là, on fait tout pour les chasser. On leur refuse des permis de construire. Il y a des milliers de localités juives israéliennes qui ont été construites, autorisées depuis 1948, zéro localité palestinienne qui ont été autorisées et construites au sein de l'État d'Israël. Donc c'est un processus colonial qui est obsédé par la question de la supériorité démographique juive. Il faut toujours qu'il y ait plus de juifs que d'arabes. Et c'est pour ça que ce qui fait le sionisme, c'est pas tant la question d'un État, deux États, pas d'État, 13 États. C'est la question de comment les uns et les autres se positionnent par rapport au droit au retour des descendants des réfugiés de Palestiniens de 48 et de 1967. Moi, en tant que juif, je peux, en un claquement de doigts, bénéficier de la pleine citoyenneté israélienne et m'installer et me déplacer à ma guise dans l'intégralité de l'espace de la Palestine historique entre le Jourdain et la mer Méditerranée. Donc finalement, dans tout le territoire qui est peu ou prou contrôlé par Israël. Pourquoi quelqu'un comme Rima Hassan, qui est une descendante de réfugiés palestiniens, dont les grands-parents viennent d'un village qui a été détruit par Israël en 1948 et remplacé comme une forêt, par une forêt, comme c'était souvent le cas à l'époque, pourquoi elle aurait moins de droits que moi d'aller, de m'installer, de me déplacer à ma guise, à sa guise, dans cet espace-là? Et ça, c'est vraiment ce qui permet de distinguer une position sioniste d'une position anti-sioniste. Nous, nous sommes anti-sionistes égalitaristes. C'est-à-dire que nous sommes pour que les droits dont nous bénéficions, nous, juifs du monde, soient étendus
aux Palestiniens du monde.
Ouais, c'est pas plus compliqué que ça.
Oui,
tout simplement. Et donc, sionistes de gauche, finalement, si je dis que c'est une schizophrénie, c'est parce que ils peuvent publier de très jolies tribunes pour appeler à un cessez-le-feu à Gaza, même s'ils ne parleront évidemment jamais de génocide. Ils peuvent être de vaillants militants antiracistes et pour l'égalité. Mais, et j'ai fait vraiment un très long travail de recherche à ce sujet, ils ne prennent jamais position sur le droit au retour pour les Palestiniens. Pourquoi ? Parce que avant d'être de gauche, ils sont sionistes. Ils privilégient le caractère juif de l'État d'Israël plutôt que son attribut supposément démocratique. Mais ça la foutrait un petit peu mal, pardonnez-moi l'expression, de l'assumer depuis le camp de l'émancipation, de l'assumer depuis notre camp social. Donc ils n'en parlent pas. Alors que l'aile droite du bloc sioniste, eux, n'ont aucun problème à assumer le fait que non, pas d'Arabes ici, pas de Palestiniens ici. Ils ont plein de pays, nous on en a qu'un, ça suffit, etc., etc. Au moins on peut accorder à l'aile droite du bloc sioniste le mérite de la cohérence. Alors que l'aile gauche du bloc sioniste, et c'est vraiment cette question du droit au retour qui permet de nous distinguer, nous anti-sionistes égalitaristes, de eux sionistes de gauche, c'est que la lutte contre l'apartheid s'arrête là où commence la possibilité de l'extension au retour pour les descendants des expulsés palestiniens de 48 et de 67.
Et d'où toutes les polémiques sur l'expression « from the river to the sea
»,
qui est accusée d'être, de pousser de noyer les juifs dans la mer.
Là, il y a un porte-parole influent, qui est un grand militant, qui était ensemble, qui est cofondateur du RAR, Robert Hirsch, pour ne pas le citer, qui a dit dans un webinaire, tout ça est public, je n'invente rien, que le slogan du fleuve à la mer, la Palestine sera libre, Palestine will be free, ça veut dire, c'est une Palestine libérée des Juifs. Donc soi-disant, on va appeler à la libération de la Palestine, ça voudrait dire jeter les Juifs à la mer. Mais en fait, Hirsch, comme tous les sionistes, qu'ils se rêvent de gauche ou qu'ils se revendiquent de droite, confond présence juive. C'est vrai, il y a toujours eu des juifs sur ce bout de terre-là. Toujours. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas le problème de savoir qui est des juifs ou non. Le problème, c'est la souveraineté judéo-israélienne exclusive. Le problème, c'est le sionisme. C'est le régime sioniste qui est un régime d'apartheid, colonial et génocidaire, comme on le voit en ce moment dans la bande de Gaza. Parce que c'est pas parce qu'il y a un cessez-le-feu que le génocide est terminé. Il n'y a presque plus d'hôpitaux, il n'y a plus aucune structure viable. Plus de 40% des terres arables ont été détruites. Donc c'est pas c'est invivable. Donc, de nombreux, de milliers de personnes vont encore mourir, même si les armes se taisent quelques jours. Donc le génocide n'est pas terminé.
Alors, évidemment, c'est une question, surtout depuis les attaques du Hamas, dont les gens parlent beaucoup, avec une charge d'ailleurs, ça rend un peu les gens cinglés, si tu veux, avec une charge émotionnelle importante. Moi, je discute avec certains amis avec lesquels je ne suis pas d'accord, d'ailleurs. Et il y a un argument qu'on me ressort souvent. On me dit, oui, Israël commet des trucs dégueulasses.
Mais ça n'est pas le seul État à commettre des trucs dégueulasses. Enfin, il y a la Chine qui zigouille les Ouïghours, ceci, absolument, cela. Donc on me dit, le fait que j'attende d'Israël qu'il ait un comportement moins dégueulasse est une preuve d'antisémitisme, parce que je ne réclamerai pas ça d'un autre État dégueulasse. Voilà.
Alors, moi, je pense.
Donc, pourquoi Israël serait-il tenu à être plus moral que la Chine ou voilà.
Pour plein de raisons, mais notamment parce que, au moins, la Chine ne prétend pas être un État qui respecte les droits de l'homme, les valeurs bourgeoises occidentales, libérales, que sais-je encore. Et puis, autre élément. Moi, je trouve que cette accusation, qu'on appelle justement le... Je crois que les jeunes appellent ça whataboutisme, c'est-à-dire what about et à propos d'eux, donc, et à propos de la Chine, et à propos du Congo, et à propos du Soudan. Pourquoi vous ne dites rien sur ce jeu-là? Bon, très bien. Moi, je pense que fondamentalement, on fait de la politique avec ses tripes. Et pour moi, c'est très clair. Israël, eh ben, c'est pas le Sri Lanka, c'est pas la Suède. J'y ai beaucoup de proches. Et je me suis, comment dire, là c'est la première fois que je le dis en plus, j'ai été trompé par Israël. Moi je suis un ancien sioniste de gauche, j'ai été fasciné par le projet israélien, par la résurrection de la langue hébraïque, par certains aspects de la culture judéo-israélienne. Je trouve ça fascinant, et d'ailleurs ça continue de m'intéresser. Et c'est parce que ça m'a... personnel. Et il a fallu que j'aille en Israël, que je rencontre des Palestiniens là-bas pour comprendre la véritable nature du sionisme et que je me désionise progressivement. Et donc, pour moi, c'est une affaire personnelle. Donc, et je pense que pour beaucoup, par exemple, de alors, j'aimerais bien dire, oui, c'est une affaire d'humanité générique. Nous devrions tous nous lever pour nous opposer à ce génocide qui est financé aussi par nos gouvernants, par notre industrie, par notre appareil militaro-industriel, etc. Donc c'est notre responsabilité politique aussi. Donc, c'est vrai tout ça. Mais il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt non plus. Pour nous, juifs, c'est une question importante. Moi, je le prends de façon très minoritaire parmi la communauté juive, mais on n'est pas si minoritaire que ça, d'ailleurs. On recrute beaucoup de jeunes, et c'est une très belle chose. Alors, on n'est pas au point où en sont nos camarades états-uniens, malheureusement, mais qui sait, peut-être bientôt. Et c'est vrai aussi que pour beaucoup de jeunes Français de la deuxième, troisième génération, qui viennent par exemple d'Algérie, eh ben, le colonialisme, ça parle. Et ils retrouvent l'expérience de leurs grands-parents dans l'expérience que vivent au jour le jour, les Palestiniens. Et ça, c'est... faut pas faire comme si tout ça n'existait pas. Et c'est pas racialiser la chose. Au contraire, c'est juste partir de certaines réalités tangibles, objectives, et si j'osais, matérielles. Parce qu'en fait, on fait de la politique à partir de ce qu'on est. Ça, c'est la base du marxisme, non? Et donc, on peut pas faire comme si on n'avait pas d'histoire. Comme si... la transmission des conflits et des difficultés coloniales n'avait aucune incidence. Alors, moi, je comprends que le 7 octobre, c'est un traumatisme pour les Juifs du monde. Je comprends. Je comprends que ça puisse réveiller la mémoire de pogroms, voire même la mémoire de la Shoah. Par contre, ce que je ne pardonne pas, c'est que l'État d'Israël instrumentalise ses peurs pour occulter complètement la dimension coloniale et l'absence de solution politique déterminée par Israël dans cette éruption de violence. Et qu'on n'a pas tué des juifs parce que juifs, on a tué des Israéliens parce qu'Israéliens, et c'est dégueulasse et c'est malheureux, mais c'est pas la même chose.
Nous allons faire une pause musicale.
Frédéric, tu peux lancer la chanson, qui est une chanson.
إن شاء الله تربح ويزول عليك الهم تفرح. غني ولعب واشطح الدنيا كامله مزاح ان شاء الله تربح يزول عليك الهم تفرح غني ولعب واشطح الدنيا كامله مزاح شبابك وغنم زمانك نعدي ايامك بالهنا وفرح متسع شبابك وغنم زمانك نعدي ايامك بالهنا وفرح ان شاء الله تربح يزول عليك الهم تفرح غني والعب واشطح الدنيا كامله مزاح ان شاء الله تربح ويزول عليك الهم تفرح غني والعب واشطح الدنيا كامله مزاح يزول عليك الهم تفرح غني والعب واشطح دنيا كامله مزاح ان شاء الله تربح يزول عليك الهم تفرح غني والعب واشطح دنيا كامله مزاح تزهالك انسى واحبابك خلي عديانك يبقى وفي الافراح ان شاء الله تربح يزول عليك الهم تفرح غني والعب واشطح دنيا كامله مزاح ان شاء الله تربح ويزول عليك الهم تفرح غني والعب واشطح دنيا كامله مزاح ان شاء الله تربح ان شاء الله تربح ان شاء الله تربح ان شاء الله تربح.
Voilà, Maxime, peux-tu nous parler de cette chanson et de son auteur ?
Je pourrais en parler des heures, donc je vais essayer de rester court. Alors c'est une chanson, Inch'Allah Telbah, qui signifie, je crois, que tu sois couronné de succès si Dieu le veut. Bon, peu importe le titre de celle-ci, elle est interprétée par un grand artiste juif d'Algérie qui s'appelle Elie Boniche, hein, donc c'est mon origine familiale aussi, d'ailleurs. J'ai grandi avec sa musique, et pour moi c'est passionnant parce que ça montre vraiment toute la complexité de la condition juive d'Algérie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle de juifs marocains, de juifs tunisiens, de juifs égyptiens, de juifs libyen, mais on ne dit jamais juif algérien.
Oui, c'est vrai.
Il y a une raison à cela, c'est qu'en 1870, il y a eu le décret Crémieux. Il y a eu le décret Crémieux qui a arraché les indigènes juifs à leur corps social pour en faire des Français en une nuit. Mm-hmm. Parce que, précisément, il y avait les juifs français de la métropole qui se disaient « Ah, mon Dieu, des juifs arabo-berbères qui prononcent l'hébreu d'une manière bizarre, qui s'habillent comme des arabes, qui sont pouilleux comme des berbères. Vite, il faut leur apporter la lumière de la civilisation franco-occidentale. Bon. » Et moi, j'ai beaucoup de respect pour Elie Boniche parce que c'est un authentique artiste algérien. Et il l'avait en horreur et il l'a dit à de nombreuses reprises. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, notamment, outre toute l'affection et tout l'amour que je lui porte. Il avait en horreur qu'on dise qu'il faisait de la musique juive d'Algérie. Non, je fais de la musique arabe ou je fais de la musique algérienne. Je fais pas de la musique juive. Et c'est très significatif cela. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé de nous désarabiser. Pour moi, être juif. Alors, comment dire, je suis plus tout jeune, mais je suis quand même jeune. Enfin, je suis beaucoup trop jeune pour avoir vécu moi-même. En Algérie, j'ai 39 ans, mais pour moi, ma judéité s'est construite en harmonie avec une certaine arabité. Donc c'était, enfin, et c'est ce qu'on a demandé aussi aux juifs arabes pan-Israël de s'amputer de leur arabité, ce qui était complètement absurde. Et d'ailleurs, maintenant, les plus grands racistes anti-palestiniens pan-Israël, malheureusement, sont les descendants du juif arabe. Parce que précisément, il y a eu toute cette. Parce qu'il ressemblait à l'ennemi, il parlait la langue de l'ennemi, il mangeait la nourriture de l'ennemi, donc il devait prouver qu'ils étaient encore.
Plus royalistes
que le roi, absolument. Ouais. Et donc j'ai toujours apprécié la fierté et la dignité d'un Lili Boniech qui disait : mais votre question, elle est complètement débile, moi je joue de la musique arabe et puis c'est tout.
Alors, dans ton bouquin, tu écris une phrase : tout effort de contextualisation des attaques du Hamas est criminalisé. Et alors, à un point phénoménal, est-ce qu'on peut faire un peu la liste hallucinante de cette criminalisation, je veux dire, de censure d'artistes, hein, d'inculpation, d'apologie du terrorisme, enfin, c'est absolument effarant. Enfin, quoi.
La question de l'antisémitisme et, justement, du terrorisme.
Mm-hmm. Bon, très rapidement, ce qui s'est passé en Israël a été instrumentalisé par la Macronie. Très rapidement, on a interdit des manifestations avec le peuple palestinien à Gaza sous les bombes au nom de la sécurité des Juifs. Je cite Darmanin, à l'époque ministre de l'Intérieur. Très rapidement, dès le 10 octobre, Dupond-Moretti a publié une circulaire qui justement assimile tout effort de contextualisation à ce qui s'est joué le 7 octobre en Israël comme une apologie du terrorisme. Donc, et c'est pas moi qui le dis, ça, il y a eu de nombreuses analyses qui ont conduit à déterminer que c'était la première fois qu'on manipulait cette accusation d'apologie du terrorisme, non pas au nom de la sûreté de l'État, qui de toute façon c'est un concept dégueulasse, ça vous êtes bien placé pour le savoir, c'est les lois scélérates du 19e siècle contre vos camarades anarchistes. C'était construit pour ça. Voilà, pour la première fois, on a mobilisé cette forme de loi scélérate et ce qualificatif juridique d'apologie du terrorisme, non pas pour protéger les intérêts bourgeois de la République, ce qui est dégueulasse en soi, je le répète, mais pour protéger le narratif, le récit d'un État étranger sur ce qui s'est joué le 7 octobre en Israël. C'est complètement fou quand on y pense, quand on prend un petit peu de recul. Et qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre ? Il y a une divergence de vue fondamentale avec les sionistes de gauche, et précisément, c'est aussi pour cela que je les qualifie de sionistes de gauche. Parce que Golem, Le Rare, les JJR, pour ne mentionner qu'eux, pense pouvoir reproduire le narratif israélien qui assimile le 7 octobre à un coup de tonnerre antisémite dans un ciel serein dégagé de toute forme d'oppression coloniale. Juste, on a tué des juifs parce que juifs, parce qu'on avait envie de buter des juifs.
Parce qu'antisémite,
fondamentalement. Alors, je ne nie pas, évidemment, je ne nie pas qu'il y a des représentations antisémites dans l'idéologie porté par un mouvement tel que le Hamas, évidemment. Mm-hmm. Mais j'interroge ses origines d'une façon matérialiste. Qui, le premier, crée la confusion entre juifs et Israël ? C'est l'État d'Israël lui-même. Qui met des symboles juifs sur son drapeau national ? Qui met une menorah, le gigantesque chandelier juif, devant son assemblée nationale ? C'est Israël. Qui intervient ? Enferme, tue, vole, viole au nom de la sécurité du peuple juif, au nom des juifs, c'est l'État d'Israël lui-même. Donc, il ne faut pas se raconter d'histoire. Et qui a empêché toute forme de solution politique depuis des années ? Je rappelle, 2018, il y avait la marche pour le droit au retour des réfugiés palestiniens. Il y avait les Gazaouis qui se rapprochaient de leur enclos militarisé, de leur prison, des ports de leur prison à ciel ouvert. Il y a eu des centaines de morts et des milliers de blessés. On leur tirait à balles réelles sur les genoux, parfois dans la tête. Qui a fermé la porte à toute solution politique ? Donc moi, je suis pour ce que j'appelle dans le livre la co-responsabilité de la violence en situation coloniale. Et je cite une situation qui date justement de la seconde intifada. Donc on est au début des années 2000 à Jérusalem, et il y a un militant du Hamas justement qui se fait sauter, hein, avec une charge explosive sur lui dans un marché de la partie juive de la ville. Il y a 5 morts, plus lui, dont une enfant de 13 ou 14 ans, Smadar Peled, et qui est vraiment une fille de la haute société israélienne. Et la mère de Smadar connaît Benjamin Netanyahou. Ils ont été au même lycée, ils ont fréquenté le même cercle. Donc Netanyahou l'appelle, il était déjà Premier ministre à l'époque, cet homme-là. Et il veut lui présenter ses condoléances, et là, sa réponse, elle est cinglante. Elle est « Bibi, qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ?» Et elle expliquera plus tard qu'elle ne fait aucune différence entre le terroriste qui s'est fait sauter sur le marché juif de Jérusalem et des jeunes soldats israéliens qui empêchent une femme palestinienne de passer un checkpoint en Cisjordanie occupée du fait, je la cite, qu'elle en perd son enfant, parce qu'elle fait référence à de nombreuses femmes enceintes auxquelles on a refusé l'accès à des hôpitaux palestiniens et donc qui ont perdu leurs enfants. Et ça, à l'époque, les sionistes de gauche visualisaient ce principe de co-responsabilité de la violence. Maintenant, c'est terminé.
Oui.
Ce que fait Golem, là, c'est qu'ils disent justement, ils s'en sont pris à Mélenchon. Mélenchon, si je ne m'abuse, c'est le seul qui ait dit non, le 7 octobre, on n'a pas tué des juifs parce que juifs, mais on a tué des israéliens parce qu'israéliens. Il s'est pris une volée de bois vert, et notamment par Golem, qu'il a accusé d'ajouter de la confusion à la compréhension de ce qu'est l'antisémitisme, en ne reconnaissant pas le motif profondément antisémite dans les attaques du 7 octobre. Mais le problème du sionisme de gauche et de ses organisations, c'est qu'ils prétendent être pour le cessez-le-feu, et qui disent que le 7 octobre, c'est un acte de barbarie purement antisémite. Je cite Jonas Pardo dans le bouquin, qui est un cofondateur de Golem, et qui dit le 7 octobre, on a tué des juifs parce que juifs. C'est très clair, c'est assumé. Bon. Sauf que il pense pouvoir se dispenser d'intérioriser le corollaire immédiat de cette falsification de ce qu'a été le 7 octobre, à savoir un moyen pour justifier et conduire un génocide à Gaza. Et c'est pour ça que je dis que le sionisme de gauche est une schizophrénie finalement. Hein? Parce que là, voilà, à nous, militants des coloniaux qui proposaient une autre analyse du 7 octobre sans jamais soutenir ce qui s'est passé le 7 octobre. Évidemment.
Bah oui.
Évidemment. Mais par contre, c'est pas parce qu'on soutient pas ce qui s'est passé le 7 octobre qu'on va raconter n'importe quoi et dire qu'on a tué des juifs parce que juifs. Si la Palestine était occupée par des Vikings, on aurait tué des Suédois et pas des juifs. Ça n'a aucun sens de décontextualiser à ce point la situation coloniale là-bas.
Oui, je comprends. Tu parlais de Mélenchon tout à l'heure. Comment tu expliques cette campagne de diffamation ?
Moi, je pense que on observe, et ça peut s'observer un peu partout, ça peut s'observer en Grande-Bretagne, en Allemagne, même avec Sanders aux États-Unis, hein, alors qu'il est lui-même juif. Dès lors que le bloc bourgeois, le capital, les médias dominants voient qu'il y a une force révolutionnaire pour un sou, hein, mais une force qui rompt avec l'ordre néolibéral en cours. Ils veulent l'écraser. Ils veulent l'écraser. Et donc, la disqualification par un faux procès en antisémitisme, ça fonctionne très bien. C'est une stratégie. Alors, je ne dis pas que Mélenchon n'a jamais dérapé sur la question de l'antisémitisme. Je pense que, mais même sur la question de l'antiracisme, la gauche en général est très mauvaise sur ces questions. Alors, je vais peut-être faire grincer des dents sur ce plateau, mais tant pis, j'assume. Moi, je trouve qu'il a beaucoup appris sur l'islamophobie, par exemple, sur la lutte contre l'islamophobie, parce que oui, on s'en prend à des musulmans parce qu'ils sont musulmans, et c'est la forme de racisme qui est la plus respectable. On peut critiquer les musulmans à longueur de temps, voire même parfois produire des lois discriminatoires à leur encontre. Mais c'est le seul racisme qu'on peut
tolérée, voire même qui est valorisée. Hein? Il y a des personnalités du bloc bourgeois qui se targuent d'avoir un bel esprit critique, etc. etc. Bon, je pense que c'est ce que Schneiderman, dans son nouveau bouquin, assimilerait à une forme de charlisme, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, j'espère que vous l'inviterez sur vos ondes aussi. Donc, voilà, je pense qu'effectivement, tous ceux qui ont une chance de s'emparer du pouvoir un petit peu et de remettre en cause l'ordre tel qu'il est, le monde...
La domination
capitaliste, mm-hmm. très très clairement. Mm-hmm. Et ben, c'est un outil, justement. Je crois que Mélenchon parlait de rayon paralysant, ben, c'est un peu le cas.
C'est ce qui s'est passé pour Corbyn, qui a été l'objet d'une campagne monstrueuse.
Voilà. Et tout ce qu'on essaye de faire, une partie de ce qu'on essaye de faire, c'est d'empêcher la corbynisation de Mélenchon. Parce que dans la gauche institutionnelle, je ne parle pas des camarades du NPA ici, mais dans le champ de la gauche institutionnelle, s'il n'y avait pas eu la France insoumise pour soutenir le peuple palestinien depuis le 7 octobre, on aurait été seul. Qu'est-il advenu du Parti communiste français, qui était un grand ami de la Palestine? Et là, Roussel, justement, encore une fois, pour se démarquer de Mélenchon, eh ben, il n'a pas voulu parler de génocide, pas tout de suite, ou trop tard. Et puis, il a dit que le 7 octobre, c'était antisémite pour pas qu'on l'assimile à Mélenchon. Quelle tristesse.
J'aime
une famille communiste, en plus, donc j'ai deux côtés, donc ça m'a vraiment beaucoup peiné.
J'aimerais beaucoup que nous parlions un tout petit peu du Rassemblement National. Il s'aligne aujourd'hui sur les positions les plus radicales du suprémacisme israélien. Tu l'expliques comment ?
Alors, deux éléments. Premier élément, Theodor Herzl lui-même, donc le père du sionisme politique, j'entre pas dans les détails ici, on n'a pas le temps, mais avait noté dans ses mémoires et avait parfaitement conscience que les antisémites, donc l'extrême droite, seraient les meilleurs alliés du sionisme. Pourquoi ? Parce qu'ils partagent le même objectif, se débarrasser des juifs. Donc, il y a une alliance objective qui se forge depuis le début entre le sionisme politique qui vise à faire migrer tous les juifs vers la Palestine et l'extrême droite européenne, profondément antisémite, qui vise à chasser tous les juifs hors d'Europe. Donc, il y a une convergence d'intérêts. Il y a alliance objective. Maintenant, les sionistes de gauche, justement, estiment que si l'extrême droite peut devenir un acteur de la lutte contre l'antisémitisme, c'est parce que la gauche radicale, et notamment insoumise, abandonne la lutte. Et donc, il y aurait une place vacante, et hop, comme par magie, l'extrême droite pourrait s'y engouffrer, s'y sentir à l'aise, et donc se dédiaboliser. Rien ne serait plus faux. Enfin, je mobilise dans mon texte un tweet de Arnaud Klarsfeld, qui est le fils des illustres chasseurs de Nanny Serge et Beate Klarsfeld, qui dit la chose suivante. En substance, le CRIF ferait bien d'inviter Marine Le Pen à ses dîners annuels parce que le peuple juif n'a pas tant d'amis. Et cette phrase est d'une violence incroyable parce qu'elle assimile tous les juifs aux sionistes et donc elle nourrit cette confusion qui peut pour des personnes peu politisées, etc., qui peut renforcer des préconvictions déjà un peu antisémites. Donc c'est très dangereux de mon point de vue. Mais en même temps, la clé de la compréhension, elle est là. C'est qu'il suffit à l'extrême droite de faire patte blanche et de soutenir radicalement les positions les plus extrémistes de l'État d'Israël pour apparaître comme un acteur légitime dans le champ de la lutte contre l'antisémitisme. Et c'est dramatique, parce que c'est quand même un député du Rassemblement National, par exemple, qui tenait, il n'y a pas si longtemps que ça, avant de monter à Paris et à l'Assemblée Nationale, une librairie négationniste. Donc, les vrais antisémites, où sont-ils ? À l'extrême droite. Mais c'est ce que je racontais un petit peu plus tôt avec Elon Musk. Mais c'est aussi ce qu'on pourrait dire de la relation entre Benjamin Netanyahu
et Orban, par exemple.
Et voilà, je te remercie parce que son nom m'échappait. Orban est pétri de tropes antisémites. Pour lui, Soros et les fondations pour les droits humains qu'il finance, alors ça peut être critiquable, tout ça, mais pour lui, c'est le symbole de la mainmise tutélaire des juifs sur les affaires nationales hongroises, etc. Enfin, il est pétri vraiment de façon de voir le monde profondément antisémite. À partir du moment où c'est un grand soutien et un grand ami d'Israël,
ça aucune passe. Importance.
Comme avec Elon Musk et comme avec Marine Le Pen.
Oui, c'est ça.
Pareil. Mmh. Et moi, j'en veux énormément à la Macronie, qui a organisé cette grande marche pour la République et contre l'antisémitisme et qui a invité tous les députés à venir, y compris ceux du Rassemblement National. Donc c'est ce qui a permis finalement de parachever leur processus de dédiabolisation. Exactement. Mmh. Et au contraire, d'approfondir la diabolisation de la France insoumise. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est comme un mécanisme de vase communicant. Et moi, ce que je dis dans mon texte aussi, c'est in eros Israël veritas. Dis-moi si tu aimes Israël et je te dirai si tu es convenable, etc., etc.
Acceptable.
Ou si, au contraire, tu dois être chassé et traité comme un paria.
Alors, il y a une question aussi. Il y a l'instrumentalisation de l'antisémitisme et il y a une instrumentalisation de la mémoire du génocide. Mmh. Alors, et il y a vraiment que se pose la question de la place de cette mémoire. C'est des questions complexes sur la victimisation, voilà quoi.
Bon, moi, j'ai été beaucoup marqué, je nomme, par les travaux d'un Norman Finkelstein, justement, oui, qui est un descendant de rescapés de la Shoah, et qui montre comment Israël, justement, instrumentalise la mémoire de la Shoah pour garantir son impunité et continuer tranquillement d'exercer son projet colonial en Palestine. Cette question, elle est brûlante. Il n'y a pas si longtemps que ça, le ministre des Affaires étrangères français, là, son nom m'échappe.
Le cornu. Barrot.
Barrot, voilà.
Barrot.
Barrot répondait à une question d'un député insoumis, David Guiraud, je crois, qui demandait pourquoi est-ce que le match de foot France-Israël était maintenu en plein génocide. Bon. Et là, la réponse de Barrot, elle est extrêmement significative. Il a dit la chose suivante, en substance. Comment pouvez-vous parler de génocide? Vous salissez la mémoire des Juifs, etc. etc. Donc c'est pareil. Là, il balance les Juifs sous le bus, soi-disant pour les protéger, mais pour mieux disqualifier son adversaire politique de gauche. Donc c'est vraiment très sale. C'est vraiment... ignoble. Et nous, en fait, on se base sur le droit. Et évidemment, Gaza, c'est pas Auschwitz. Mais personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Par contre, l'article 2 de la Convention pour la prévention des crimes de génocide de 1948, il y a eu deux rapports de la rapporteuse des Nations Unies pour les territoires occupés palestiniens, Francesca Albanese, qui démontre qu'il s'agit bien de crimes de génocide. Mmh. La Shoah n'a pas le monopole du génocide. D'ailleurs, et je terminerai peut-être cette question là-dessus, en Allemagne, là, il y a une nouvelle loi qui vient d'être adoptée, transpartisane. Donc la gauche radicale s'est abstenue, très peu courageusement, mais les Verts ont voté avec l'AFD, par exemple, avec le parti d'extrême droite. Et cette loi, ça s'appelle Plus jamais ça, c'est maintenant. Donc le plus jamais ça, plus jamais de génocide. Alors là, clairement, pour les Juifs, parce qu'il y a plein de dispositions, notamment la déchéance de nationalité si on ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël, etc. Enfin, voilà, plein de choses extrêmement racistes, profondément racistes. Nous, et je profite d'ailleurs pour faire un petit peu de publicité, nous, on a une conception beaucoup plus large et beaucoup plus inclusive de ce plus jamais ça. Le plus jamais ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les peuples menacés du monde. Voilà. Et le week-end prochain, à Paris, on organise, donc c'est une coopération de l'Union juive française pour la paix du collectif juif décolonial CEDEC, un colloque sur 2 jours. Mmh. Pour commémorer le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, justement, et pour penser le fait génocidaire en mobilisant histoire, présent, philosophe, militant, en parlant du cas rwandais, du cas Gazaoui, évidemment.
Ça se passe où ?
Ça se passe au siège du POI qui nous prête ses locaux.
C'est donc, où ça ?
À Paris, l'adresse exacte, là, ça
d'accord.
m'échappe.
Mais c'est facile à trouver.
C'est facile à trouver sur le site internet de CEDEC et sur le site internet de l'UJF.
On va te poser une dernière question, parce que malheureusement, le temps passe vite. Et
je suis bien avec vous, je ferai bien assez plus.
À ton avis, est-il possible de nouer ou de renouer le dialogue avec les sionistes de gauche ?
Oui.
Je répondrai sans y répondre. Moi, j'ai tendance, en ce moment, dans la période, à plus facilement pouvoir essayer de parler et de convaincre et de dialoguer avec un électeur des classes populaires pour le Rassemblement National plutôt qu'avec un macroniste ou un socialiste de droite. Je n'y arrive plus. Ça, peut-être que ça viendra, peut-être que j'arriverai à parler avec eux, mais je n'y arrive plus. Et bien pour les sionistes de gauche, c'est exactement la même chose. Mm-hmm. C'est-à-dire que je connais, dans ma famille, dans des anciennes relations, etc., les sionistes de droite assumés. Bien, j'ai beaucoup plus...
C'est plus facile.
C'est plus clair. Il n'y a pas de faux semblants.
Ben voilà.
C'est clair. Mm-hmm. L'hypocrisie des sionistes de gauche alors qu'un génocide est en cours, là, moi, j'ai du mal. Je pense qu'il faut... On va devoir se parler, évidemment. Et moi, j'aimerais bien qu'ils répondent sur le fond, sur les critiques que je leur formule, mais...
Il n'y a pas eu de réaction.
Il y a eu des réactions de Jonas Pardo, pas sur le texte, mais sur mes organisations politiques et sur la base de propos complètement fallacieux, mais rien sur le fond, sur la manière dont moi je les caractérise, malheureusement.
Merci beaucoup, Maxime.
On rappelle le titre du livre, Contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations,
à la fabrique,
ouvrage collectif, dont l'un des auteurs est notre invité, Maxime Benatouille.
Merci
infiniment.
Merci à
vous. Et c'est vraiment trop court.
Merci.
Je reviendrai peut-être.
Bah oui.
Merci Frédéric.
Merci Frédéric.
Tu peux lancer notre sublime générique.
s'arrêtera ce train. Une autre vie au bout du chemin. Peut-être seras-tu là-bas.
Eh bien, pour finir, on va vous faire l'une des plus belles chansons du monde, si ce n'est la plus.
A nine plan autour des tours de Notre-Dame. A nine clame son existence avant qu'elle ne se fasse. Jette du riz sur le parvis.